Bonsoir à tous, effectivement. Yacouba Ouidraougou avec vous, ravi de vous retrouver pour Sporama sur VO Afrique. Et comme chaque semaine, nous allons revenir sur les résultats et les faits sportifs marquants. Dans ce numéro de ce lundi 3 février, nous revenons particulièrement sur le tirage au sort de la CAN Maroc 2025 et le calendrier de la compétition. Pour décrypter tout cela, comme d'habitude, Élisée Mpatin nous rejoint depuis Boyoukon au Bénin. Élisée, bonsoir.
Oui, bonsoir Yacouba Ouidraougou et bienvenue au Bénin.
Merci. Jules Valentin Ngoué est en direct depuis Libreville au Gabon. Jules, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Merci. Avec nous également Amine Birouk en direct depuis Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Et bien évidemment notre cher ami Amdine Sy à Columbus dans l'Ohio ici aux États-Unis. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Merci à tous de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. Le tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations a eu lieu lundi dernier au Théâtre National Mohamed V de Rabat. Amine Birouk, tout de suite avec vous, sur la forme, beaucoup de couleurs dans ce tirage.
Beaucoup de couleurs, beaucoup d'images, beaucoup de tradition et de modernité à la fois. L'essentiel, c'est que le Maroc a mis les petits plats dans les grands pour cette cérémonie de tirage au sort qui a duré près de 2 heures et qui a permis de tenir en haleine l'Afrique du football, qui a permis de mettre en avant la culture marocaine. Et aujourd'hui, la culture marocaine, c'est une diversité, c'est un mixte entre tout ce qui est lié à la tradition et à l'histoire, au patrimoine, et tout ce qui est ouvert vers d'autres océans, vers d'autres rivages, et notamment la modernité. Je pense que la cérémonie a été une illustration de ce que nous pourrons vivre à la CAN, puisque le Maroc ouvre grand ses portes et ses bras à l'Afrique. Casablanca est aujourd'hui un bain incontournable qui permet de lier l'Afrique subsaharienne à l'Europe, et Casablanca, Rabat, Agadir, Marrakech, Tanger, Fès seront évidemment les villes qui accueilleront avec beaucoup de plaisir l'Afrique du football.
Et bien évidemment, Élisée, un point d'honneur quand même sur Dimon Nzou, vous en parlez hein, lundi passé, et Nabila, Kilani bien sûr, qui ont rehaussé cette cérémonie à travers une très belle animation.
Enfin, une très belle animation, j'étais même un peu surpris de le voir dans ce rôle-là, et c'était quand même un grand honneur pour le Bénin qui retourne en même temps la Coupe d'Afrique des Nations après avoir raté 2 éditions, puisque la dernière édition que le Bénin a pu participer, c'était justement dans le nord de l'Afrique, précisément en Égypte en 2019. Donc le Bénin retrouve la compétition avec à la clé un chef-d'œuvre, bien sûr, son fils, un digne fils, né dans la capitale béninoise à Porto-Novo, puisque les Porto-Noviens, dont vous imaginez, c'est une grande joie ici dans tout le pays.
Élisée, un digne fils connu ici aussi à Hollywood. Écoutez, on va aller directement sur le fond. Les 24 sélections qualifiées ont été réparties dans 6 groupes de 4 équipes. Dans le groupe A, le Maroc, le pays hôte, bien sûr, va retrouver le Mali, la Zambie et les Comores dans ce qui semble quand même être une poule, quand même disputée. Analyse tout de suite avec Amine Birouk.
Oui, on peut parler d'un groupe assez équilibré. Le Maroc semble au-dessus du lot, mais n'est pas à l'abri d'une mésaventure. Tout dépendra bien évidemment de l'entame de la compétition avec le match d'ouverture le 21 décembre à partir de 20h heure marocaine, 19h GMT, contre la sélection des Comores qui disputera la 2e CAN de son histoire. Les Comores qui ont tenu la dragée haute à la Tunisie, qui avaient même créé la sensation en venant à bout des aides de Carthage lors du tour préliminaire 1-0 à Rhadès. Il y aura ensuite un deuxième tour de chauffe beaucoup plus sérieux sur le papier face au Mali le 26 décembre à partir de 13h toujours sur la pelouse du complexe Mouya Abla de Rabat, un Mali qui débarque avec beaucoup d'ambition même s'il a toujours été bien placé mais jamais gagnant. Et puis il faudra terminer le travail avec la Zambie d'Abraham Grant, l'adversaire que le Maroc retrouvera pour la 4e fois en moins de 2 ans, puisqu'il y a eu l'affrontement de la 3e journée de la CAN en Côte d'Ivoire, victoire du Maroc 1-0. Le match des éliminatoires de la Coupe du Monde à Agadir 2-1, toujours pour le Maroc. Il y aura des retrouvailles à Lusaka au mois de septembre prochain. Et 3 mois plus tard, ce 4e affrontement face au Chipolopolos, champion d'Afrique 2012. Autant dire que les 12 travaux de Walid Regragui et Sepoulin commencent par un premier tour assez relevé. Et après, si le Maroc arrive à maintenir son rang, il aura des matchs couperés à partir des huitièmes de finale. Il faudra réussir la passe de 7, 6 victoires pour pouvoir atteindre la finale et gagner enfin un trophée qui suit le football marocain depuis 50 ans. Addis Abeba 76, Rabat 2026. L'histoire est peut-être un éternel recommencement. Le rêve est permis, mais à une condition, ne pas se tromper lors du parcours.
Bien évidemment, le rêve est permis. Alors, Amdine Sy, beaucoup d'observateurs, Amine l'a relevé également, parlent du Mali, quart de finaliste lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, mais il faudra aussi compter avec la Zambie, surtout.
Tout à fait, hein, Yacouba, vous avez raison. Si on regarde en général ce qui s'est passé au niveau du tirage et les groupes, les gens ne font pas attention. Mais c'est des groupes très, très équilibrés, car sur les 24 équipes qualifiées déjà, on retrouve 12 formations qui ont déjà gagné au moins la CAN. Et si on regarde les groupes, dans chaque groupe, il y a deux anciens champions d'Afrique. C'est le cas de ce groupe A dont parlait Ali Birou. Le Maroc l'a gagné une fois en 76. La Zambie l'a gagné une fois en 2012. Donc, il reste que Mali et le Comore qui n'ont jamais gagné et le Mali a été finaliste en 72. Le Mali, comme vous l'avez présenté, le Mali a toujours été quand même une équipe flamboyante, une équipe citée pour gagner ce trophée, mais ils ne l'ont jamais fait. Et je pense que ce qui est arrivé au Sénégal peut arriver au Mali, puisque à chaque fois aussi au-dessus de le Sénégal, il a fallu attendre deux voir le Sénégal gagner ce trophée et je pense que le Mali est prêt de gagner ce trophée et le Mali profite du Sénégal. Attention, le Mali, c'est un groupe extrêmement relevé avec le Mali, la Zambie et le Maroc, le petit poussé, comme on le sait, c'est les Comores.
L'Égypte, sept fois championne d'Afrique, est logée dans le groupe B avec un trio d'équipes d'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, bien sûr, en premier, médaille de bronze à la dernière, car l'on se rappelle, l'Angola et le Zimbabwe. Alors, Jules, l'Égypte, quand même, qui court depuis longtemps après sa période de gloire sur le continent. Mais attention à l'Afrique du Sud, quand même, il faut le reconnaître, qui voudra confirmer son beau parcours en Côte d'Ivoire. Jules Valentin Goué, si vous m'entendez.
Oui, Yacouba, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a trois équipes qui sont dans cette poule et qui, en quelque sorte, se connaissent très bien. Mais l'Afrique du Sud a un avantage, c'est que la plupart des joueurs évoluant en Angola ou au Zimbabwe ont fait l'expérience sud-africaine et le professionnalisme y est suffisamment avancé. Il n'y a qu'à voir les positions des clubs sud-africains en Ligue des Champions cette année. Alors l'Égypte vient, défie l'Afrique australe, joue dans un cadre qui lui est plus favorable, c'est-à-dire en Afrique du Nord, et dans un cadre climatique et humain qui lui est plus favorable, sans avoir la pression du pays organisateur. Et cette fois-ci, vous le savez aussi, on attend Salah au tournant. Jusque-là, il n'a pas encore démontré ce qu'il démontre ailleurs. Un des meilleurs joueurs du monde et pour moi pratiquement le meilleur attaquant africain depuis l'époque Drogba et Eto'o et qui jusque-là sur le continent africain ne finit pas sa copie. Alors on attend beaucoup de l'Égypte dans cette poule, mais on attend aussi beaucoup de l'Afrique du Sud avec son jeu, pour ainsi dire, mathématique.
Alors Élisée, l'Égypte bien sûr qui se dégage du lot, quand même cette fois championne d'Afrique, hein. L'Afrique du Sud, l'Angola, le Zimbabwe, ce groupe est-il équilibré ou pas?
Bon, c'est un groupe équilibré, il faut le dire, Yacouba. Si on enlève l'Égypte, c'est vrai que l'Égypte, cette fois champion, qui a juste derrière lui le Cameroun qui est cinq fois titré. Vous imaginez l'Égypte où à chaque édition, ça nous fait partie des favoris. Et donc l'Égypte sort du lot. Maintenant, il y aura un duel d'Afrique australe, vous l'avez dit, entre l'Afrique du Sud, l'Angola et le Zimbabwe. Et quand on sait que lors des tournois à COSAFA, Castle Cup, on voit souvent les difficultés que rencontrent les Sud-Africains. À chaque fois quand il y a des adversaires comme la Zambie qui a l'habitude de remporter ce tournoi sous-régional, il y a aussi le Zimbabwe qui a commencé à pas être régulier à ce grand rendez-vous du football africain. Donc, je dirais que bon, l'Égypte sort du lot, mais attention aussi à l'Afrique du Sud qui a été troisième lors de la dernière édition qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud avec un certain Hugo Brotz qui maîtrise véritablement le football africain pour avoir gagné le trophée avec le Cameroun avant de rejoindre l'Afrique du Sud. Donc il a bâti considérablement une équipe, on l'a vu d'ailleurs en Côte d'Ivoire où avec beaucoup de joueurs locaux, quand je dis locaux, c'est vrai que ils évoluent dans des clubs professionnels comme le Mamelodi Sundowns ou encore Orlando Pirates. Donc vous imaginez, donc c'est des joueurs qui évoluent au sein du championnat sud-africain qui se connaissent très bien avec quelques renforts venus du vieux continent, du continent européen. Donc Hugo Brotz a fait un travail très remarquable et l'Angola reste toujours l'Angola avec son football très physique, très très physique, il faut le dire. Donc ça s'annonce quand même ouvert dans ce groupe-là, mais attention à cette surprise-là, puisqu'il ne faut pas oublier, et à part les deux premiers qui seront directement qualifiés pour la huitième de finale, il y aura quatre places pour les meilleurs troisièmes. Donc les calculs seront très serrés et attention, comme je le dis encore, c'est un groupe très ouvert.
Dans le groupe C, le Nigeria est en compagnie de la Tunisie et du duo est-africain Ouganda-Tanzanie, co-organisateur d'ailleurs de la CAN 2027 à venir avec le Kenya. Alors Amine, si le Nigeria quand même a été finaliste, il manque souvent de constance, il faut le reconnaître, tout comme la Tunisie qui le plus souvent domine la phase éliminatoire, mais qui cale en phase finale.
Oui, le Nigeria, on l'a vu lors de la dernière CAN, capable d'aller jusqu'en finale puis de craquer face à la Côte d'Ivoire. Lors de l'édition qui a précédé, le Nigeria avait dominé la phase de groupe avant de s'incliner justement face à la Tunisie. Les Tunisiens d'ailleurs, qu'on a vu moins fringants en Côte d'Ivoire, ils ont été éliminés au premier tour, et beaucoup plus entreprenants souvent lors des phases éliminatoires. Sauf cette dernière où ils ont vraiment souffert le martyr pour pouvoir se qualifier. La fédération tunisienne est en quête d'un sélectionneur. On pense à Moïse Chabani qui entraîne la renaissance de Berkane, mais Berkane ne serait pas chaud pour pouvoir le lâcher avant les dates du mois de juin. La fédération tunisienne est en pleine reconstruction, donc ça peut être un obstacle pour que la Tunisie puisse faire une bonne CAN à moins de redresser la situation d'ici là. Mais les Tunisiens ont le bénéfice de l'expérience, tout comme les Nigériens, face à des Ougandais qui retrouvent la CAN. L'Ouganda a tout de même été finaliste en 78, et il y a des Tanzaniens qui ont souvent déçu lors de leur prestation phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. A priori, ce sont deux pays qui passent, c'est sur le papier. Mais il faut aussi rappeler la règle des 24 qualifiés avec 16 qui passent au second tour. Donc il y aura 4 meilleurs troisièmes. On verra si le binôme Tanzanie-Ouganda se battra pour cette place d'honneur avec le maximum de points pour pouvoir figurer dans la suite de la compétition.
Alors, Amine le disait tout à l'heure, l'Ouganda qui retrouve la CAN, mais la Tanzanie quand même qui monte, j'allais dire, en puissance en ce qui est des compétitions de clubs. Est-ce qu'il faut s'attendre ou pas à une surprise dans ce groupe-là?
Ah oui, il faut s'attendre à des surprises, hein, pas au niveau seulement de ce groupe. Dans tous les groupes, il faut s'attendre à des surprises. On a vu ce qui s'est passé en 2021 au Cameroun. L'Algérie qui a gagné le trophée bien en Égypte, terminé au premier tour. Donc, il faut faire très attention. Il y a un nivellement de valeur vers le haut, donc faisons attention. C'est vrai que le Nigeria reste le grand favori de ce groupe. La Tunisie, on le sait, toujours présente dans des compétitions comme la CAN. Maintenant, il y a les novices, l'Ouganda qui retrouve quand même cette compétition et la Tanzanie qui est en train de faire de très bonnes choses au niveau des clubs. Donc attention à ces deux pays, Yacouba.
Voilà, vous suivez Sporama sur VOA Afrique. Ne bougez pas, l'émission revient juste après cette virgule. Voilà, vous êtes sur VOA Afrique et vous suivez Sporama, donc notre émission sportive d'analyse du lundi. Eh bien, nous poursuivons notre analyse des différents groupes constitués pour la prochaine CAN Maroc 2025. Ça commence en décembre prochain. Le Sénégal, vainqueur en 2021, va affronter donc la République démocratique du Congo, le Bénin d'Élysée Mpatin et le Botswana dans le groupe D. Alors, Jules Valentin Ngoué, je sais que Amdine, et Élysée piaf d'impatience, mais on va commencer par Jules. Sans doute, le choc RDC-Sénégal sera celui qui attirera le plus d'attention, bien sûr, dans ce groupe D.
Et bien sûr, d'abord parce que les deux équipes sont des équipes en forme depuis sur les trois ou quatre dernières années, et en forme, et en même temps qui font des résultats, qui ont des statistiques. Donc, il est sûr que ce match sera le match vedette de la poule. Et les deux équipes ont également la particularité d'être particulièrement physique, donc de jouer des matchs intenses du début à la fin de la rencontre, même si sur le plan technique, les Sénégalais ont un petit avantage. Bon, mais nous allons vivre et vraiment du beau football dans cette poule où il ne faut pas négliger le Bénin qui le plus souvent joue toujours des tours aux sélections supposées être supérieures. Et donc, les Béninois ne viendront pas pour le tourisme. Et le Botswana qui assiste pour la première fois, à l'image des autres équipes du sud du continent, a quelque chose à planter. Donc, c'est une poule agréable, une poule peut-être où nous aurons des matchs, qui retiendront particulièrement l'attention.
Et justement, ce match retient aussi l'attention d'Amdine. Si, Amdine, les Léopards ont eu quand même un beau parcours pendant les éliminatoires. Ils sont allés jusqu'en demi-finale de la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Il y a eu aussi cet épisode, j'allais dire un peu difficile, hein, des Lions de la Teranga. La CAN, c'est dans 11 mois. Est-ce que tu penses que les forces vont se rééquilibrer d'ici là?
Bon, je ne sais pas ce qui va se passer, mais si on parle quand même présentement, il faut le dire, la RDC part largement avec la faveur des pronostics. D'abord, on regarde au niveau palmarès. Ce sera la 20e participation de la RDC et la RDC a gagné ce trophée à deux reprises. Quant au Sénégal, c'est sa 18e participation pour un seul trophée. Donc, sur le plan palmarès, la RDC est devant. Si on regarde maintenant les résultats, présentement, les résultats, ce qui se passe, la RDC, comme vous l'avez dit, a été demi-finaliste de la dernière CAN, éliminée par le pays hôte de la Côte d'Ivoire, alors que le Sénégal s'est arrêté en 8e de finale. Et si on regarde également, les deux équipes sont dans le même groupe concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Sénégal a reçu la RDC au stade Abdoulaye Wade Diop Niadio et le Sénégal a été annexé par cette belle équipe de la RDC qui a égalisé à la dernière minute. Donc, si on regarde ce qui se passe présentement, la RDC est favorite. Elle part largement à faveur du pronostic, mais là, c'est dans 11 mois et dans 11 mois, beaucoup de choses peuvent se passer. Yacouba.
Et justement, Élysée, dans 11 mois, beaucoup de choses peuvent se passer en faveur du Bénin qu'il faudra compter aussi dans ce groupe-là.
Et bien évidemment, pas seulement en faveur du Bénin, mais en faveur, en tout cas, toutes les sélections qui se sont qualifiées auront le temps de peaufiner leur dernier réglage, puisque n'oublions pas, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont reprendre bientôt en mars. Donc, ces sélections auront encore de grands matchs afin de bien se préparer. Puis, il y aura certainement des dates FIFA qui vont les permettre de jouer quelques rencontres amicales. Donc, c'est-à-dire que toutes ces sélections auront la chance de voir et de faire des réglages et surtout d'avoir leurs joueurs en très bonne forme. Excusez-moi. Puisque actuellement, les joueurs béninois qui évoluent un peu dans les agones sont en manque de temps dans leur club, notamment Steve Mounier, le capitaine, qui ne joue presque plus dans son club en Allemagne, à Augsbourg. Donc, vous imaginez, donc ils auront le temps de changer de club, de voir ce qu'il faut faire pour pouvoir retrouver leur forme avant d'aider leur sélection à cette Coupe d'Afrique des Nations. Dans ce groupe, c'est vrai, moi, je dirais que le Sénégal n'est pas favori devant, même si
si la RDC était jusqu'en demi-finale. C'est vrai que Sébastien Dussabre a fait un travail remarquable à réorganiser complètement ce football de la République démocratique du Congo avec des joueurs qu'on ne s'y attendait pas et qui ont retrouvé la sélection et qui ont commencé par faire de très bonnes choses. La RDC qui a largement progressé pendant ce temps, le nouvel entraîneur ou le nouveau sélectionneur du Sénégal aussi a apporté du sang neuf dans cette sélection. Le Bénin ne restera pas. Okay, donc vous imaginez, le Bénin aussi va batailler très fort pour pouvoir faire partie des 16 équipes qui seront qualifiées pour les huitièmes de finale. N'oublions pas que le Bénin aura ces trois matchs, deux matchs d'abord du côté de Rabat avant d'aller disputer son dernier match du côté de Tanger où il fait excessivement frais. Donc vous imaginez, donc voilà un peu quand même la situation béninoise. Le Bénin qui va disputer ces trois matchs dans la nuit à 19h temps universel, donc le premier contre la RDC ou un match où il ne faut pas perdre, le second contre le Botswana, deux équipes du même niveau où il faut aller chercher les trois points pour pouvoir boucler contre le Sénégal. Face au Sénégal, il ne faudra pas encaisser une défaite.
Élisée, on sent bien qu'on parle du Bénin et des guépards, ce ne sont plus les écureuils. Alors dans le groupe E, l'Algérie, vainqueur en 2019, fera face au Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Soudan. Alors Amin Birouk, les Fenecs ou les Verts, c'est selon bien sûr, retrouvent leur boulot burkinabé lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire en phase de poule.
Et leur boulot de la Guinée équatoriale qui avait mis fin à une série d'invincibilité lors de l'édition camerounaise de la CAN. L'Algérie est avisée. L'Algérie reste sur deux fiascos au premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations et ne peut pas se permettre au Maroc, dans des conditions optimales, dans un contexte qui doit sublimer les joueurs et les supporters algériens qui viendront certainement de la diaspora d'Europe, dans ces conditions-là, cette équipe entraînée par Petkovic va arriver avec un max de motivation. Mais le Burkina Faso est un habitué de la CAN. Le Burkina Faso va voir le local de service qui est son capitaine Issoufou Dayo lance cette équipe et ce sera le pilier de la défense. Et puis la Guinée équatoriale reste sur un excellent parcours lors de la dernière CAN et apparaîtra encore une fois un outsider de ce groupe. Attention à ce trio, dans l'ordre ou dans le désordre, c'est ce qu'on saura lors de la CAN marocaine.
Bien évidemment, il faudra aussi compter avec le Soudan de Florent Ibengué, Jules Valentin Ngoué, impressionnant, disons, lors des éliminatoires.
Oui, bien sûr, le Soudan, c'est un Marocain de la CAN qui a disparu un moment, mais qui est revenu. C'est une équipe qui propose toujours généralement une opposition de style. Parce que dans cette poule-là, l'Algérie aura un problème à résoudre. Elle jouera contre des équipes qui sont physiques et qui ne laissent pas les espaces. Alors que les Algériens s'énervent très facilement quand ils n'arrivent pas à trouver des espaces. Et donc, là, ils déjouent. Donc, il faut faire attention. La hiérarchie est, disons que traditionnelle, est peut-être en faveur de l'Algérie. Mais dans cette poule, tout peut arriver.
Justement, dans cette poule, tout peut arriver. Tout comme dans la dernière poule, le groupe F composé de la Côte d'Ivoire, championne en titre, et son vieux rival, et cinq fois vainqueur, le Cameroun, le Gabon et le Mozambique. Amin Birouk, Côte d'Ivoire-Cameroun, ça fait déjà parler.
C'est un classique du football africain. La première confrontation avait lieu lors de la CAN en 1970. Il y a eu du pour la Côte d'Ivoire, du contre pour les éléphants qui devront défendre leur titre. Et puis un Cameroun en est regain de forme pour peu que les bisbilles entre Marc Brice et Samuel Eto'o puissent s'arrêter. Le Gabon sera l'outsider du groupe. Et puis le Mozambique sera là pour pouvoir jouer au trouble fait. On verra dans quelle mesure ces équipes vont monter en puissance. Et puis, entre-temps, il y aura les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ces équipes débarqueront au Maroc en sachant s'ils sont aux États-Unis, au Canada, au Mexique ou pas. Je parle en particulier du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Et d'ici là, il y aura certainement des petits ajustements à faire pour la suite de la compétition.
Alors justement, Jules Valentin Ngoué, je vous reprends pour parler bien sûr de ce Cameroun-Côte d'Ivoire qui fait déjà beaucoup parler, je le disais. La Côte d'Ivoire qui poursuit sur sa belle lancée de la CAN. Le Cameroun qui se reconstruit malgré les bisbilles. Et une fois en passant, bien sûr, on espère que le coach Marc Brice ne jouera pas contre Eto'o. Comme il le disait, bien sûr, juste après le tirage. Déjà, comment vous voyez cette rencontre, très rapidement?
Oui, il faut dire qu'il y a un adage à l'époque et qui se vérifie toujours, et populaire, qui disait en Côte d'Ivoire que généralement, et la Côte d'Ivoire joue, mais c'est le Cameroun qui gagne. Et ça fait que quand on regarde les résultats des matchs entre les deux équipes, ça se vérifie effectivement. Et il me souvient que la seule défaite réelle, en dehors des tirs au but du Cameroun face à la Côte d'Ivoire, était en Guinée équatoriale en 2015. Alors vous voyez tout ce temps-là, et ça montre qu'il y a quand même un effet lion indomptable qui trouble un peu les éléphants lorsque les deux équipes se retrouvent.
Mais Jules, sauf que depuis lors, bien sûr, beaucoup de choses ont changé.
Oui, mais ce qu'on a perçu en Côte d'Ivoire, mais il était très, 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 disons que, dans une mauvaise posture. Et il n'y a pas que l'ambiance délétère qu'il y avait, mais l'effectif était extrêmement pauvre. Des blessures graves ont privé la sélection
bien, de joueurs sur certains bien évidemment, Jules Valentin Ngoué, on attendra bien. On reviendra sans doute sur ce choc qui fait déjà parler. Malheureusement, c'est ici que nous refermons ce numéro de Sporama. Merci à vous, Jules Valentin Ngoué, Amine Birouk, Amdensi, Élisée Mpatin. Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute de cette émission réalisée par Joselle Morissin. Je suis Yacouba Ouédraogo. On se retrouve la semaine prochaine.